matin avec Jésus. Je me lève en souriant, des soucis je n'en ai plus. Avec Jésus, je vais de l'avant. La nuit c'est si merveilleux, je suis tous les jours heureux. La prospérité est là, la santé est avec moi. Ton espoir est dans mon cœur, je connais le vrai bonheur. Lève-toi pour chanter avec moi. Chaque matin avec Jésus, je me lève en souriant. Des soucis, je n'en ai plus. Avec Jésus, je vais de l'avant. La vie, c'est si merveilleux. Prospérité est là, la santé est avec moi. Son espoir est dans mon cœur, je connais le vrai bonheur. Lève-toi pour chanter avec moi.
Encore, nous avons la joie d'avoir parmi nous notre frère Fabrice Soma, que j'ai connu quand il était tout jeune et tout maigre. Et c'est le premier avec qui j'étais un peu en confiance en tant de pasteur à pasteur pour lui demander « Mais ça gagne combien un pasteur burkinabé ?» Parce que ça me posait un souci quand même quand on voit toute cette misère qui est là-bas. Et alors, très humblement, très gêné, il m'a dit que c'était la somme de... Vous vous rappelez les francs? C'est pas si loin de nous, les francs. Hein, mais c'était la somme de 50 francs par mois pour lui, sa femme, ses deux enfants. Ça a fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Maintenant, je crois qu'il a progressé. Gloire à Dieu, ça va mieux. Mais il y a encore beaucoup de serviteurs de Dieu là-bas qui font beaucoup de bien, qui aident beaucoup de gens, mais qui aident des gens pauvres. Alors évidemment, ils ne peuvent pas avoir beaucoup. Mais ils s'organisent, et si vous allez dans leurs églises là-bas, eh bien, c'est la joie, ça chante, ça danse, ça tape des mains pendant à peu près 3 heures le culte le matin. Nous, on commence à 10h30, on finit à 11h30, on ne danse pas, on chante un peu, mais voilà, c'est pas la même mentalité. Mais ils mettent tout leur espoir en nous aussi, nous mettons tout notre espoir en Dieu, mais ils ont une façon de le faire qui est tout à fait particulière, mais qui est aussi due au fait qu'ils sont tellement, il y a tellement de besoins. Alors ils s'accrochent vraiment, ils s'accrochent au Seigneur. Et c'est pourquoi il y a tant de miracles, tant de guérisons, tant de bénédictions aussi. C'est parce qu'ils ont rien d'autre. Hein. Il y a pas de sécu, il y a pas de docteur, il y a pas de dispensaire. Si vous allez dans un dispensaire, c'est même pas sûr qu'on vous soigne correctement. Vous pouvez attraper d'autres maladies. Hein. On vous fait des piqûres avec des seringues qui ont déjà servi je sais pas combien de fois. C'est terrible. Non, mais il faut y aller pour se rendre compte. Il faut y aller pour se rendre compte. Notre frère, il est venu ici en France pour se parfaire, parce qu'il a déjà beaucoup étudié là-bas, pour arriver déjà au statut, à la fonction de pasteur. Mais maintenant, il va se spécialiser, c'est pourquoi il est venu en France, il va se spécialiser dans l'étude des langues, c'est-à-dire, il voudrait pouvoir étudier dans les textes grecs, hébreux, araméens et autres, afin de pouvoir aider aux traductions et puis être pas plus un pasteur avec un auditoire, mais simplement quelqu'un qui est là dans les livres, dans les parchemins, dans les un peu comme Manu, si vous voulez, mon ami Manu du Canada. Et c'est très précieux. On oublie très souvent que si nous avons des Bibles, c'est pas grâce aux évangélistes, c'est pas grâce aux prophètes, c'est pas grâce aux docteurs, c'est pas grâce aux pasteurs. C'est grâce à des gratte-papiers, à des gens qui fouillent et qui cherchent. Et voilà, cet homme a reçu de Dieu la capacité de le faire. Alors, il sait aussi prêcher, très bien d'ailleurs, et quand il vient là, eh bien, on lui donne la parole. Mais sa passion, sa grande passion, c'est l'écriture. Alors, ce matin, je ne sais pas du tout ce qu'il va me dire, ce qu'il va nous dire. Moi, je ne sais pas ce qu'il va me dire, parce que ce qu'il va dire là, pour moi, je vais le prendre. pour moi. Et je pense que ça serait bien que vous fassiez la même chose. Que Dieu te bénisse, Fabrice. Il a laissé sa femme là-bas, les enfants. Mais j'espère que bientôt, soit ils vont venir, soit tu vas retourner un peu pour les voir. Hein? Il faut, hein? Oui. Voilà. Et puis tu as vu ici, je t'ai dit, quand était l'hiver, je te disais, tu verras l'été, c'est mieux. Tu as vu comme c'est mieux l'été? Il est mal tombé cette année pour l'été. Hein? Sois le bienvenu, que Dieu te bénisse. Viens mon frère.
Bonjour encore à tous. En tout cas, toutefois, quand je viens ici, c'est une joie pour moi, en tout cas, d'être avec vous. Je suis toujours bien accueilli et je suis vraiment content pour l'accueil qu'on me réserve ici. En tout cas, c'est une grande joie pour moi. Je suis toujours content d'avoir rencontré Michel. Je crois que Dieu ne fait rien pour rien. Alléluia. Quand je quittais mon pays, je ne savais pas où est-ce que j'allais descendre exactement. J'ai pensé dire, mais Michel est là, je vais venir chez Michel. Après quoi, je vais aller à Paris, je verrai ce que le Seigneur va faire avant que j'aille à l'école. Et c'est ce qui m'a encouragé. Effectivement, il est venu me chercher à l'aéroport, il m'a montré beaucoup de choses. On est venu ici, on est parti chez Mickey. C'était vraiment intéressant. C'est un moment que je ne vais pas oublier. En tout cas, je suis vraiment content pour le pasteur, sa femme et toute la communauté. L'accueil, vraiment, pour moi, ça me bat droit au cœur. C'est même plus grand que... Je me vois trop petit pour les honneurs qu'on me donne. Alléluia. Je suis quand même content pour cela. Et effectivement, comme il a dit, moi je désire, en tout cas, pouvoir traduire un jour la Bible dans ma langue, ma langue maternelle. Donc, c'est cette passion qui me pousse donc à pouvoir étudier et à pouvoir non seulement, bon, pas comme il a dit, pas seulement me consacrer, être un pasteur à l'église comme ça simplement, mais pouvoir me verser dans les Écritures pour traduire la Bible et aider aussi plusieurs peuples africains. Donc vraiment, c'est là mon but. Je prendrai tout le temps qu'il faut pour le faire et une fois que je vais rentrer, je me consacrerai à ça. Merci. Ce matin, j'ai regardé Alain avec Antoine Joie quand les cantiques qu'il choisissait, l'encouragement qu'il donnait, c'est comme s'il savait, il connaissait le thème du message, alors que je lui ai rien dit. Effectivement, ce matin, nous allons parler du salut, nous allons parler des fondements, quatre fondements du salut. C'est de cela que nous allons parler ce matin. Et nous allons lire dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 6, Hébreux 6, versets 11 à 20. Hébreux 6, versets 11 à 20. Hébreux 6, versets 11 à 20 nous dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le feu de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Merci. Alors, avant de commenter, je vais ajouter un passage, Galates chapitre 3, verset 9. C'est juste un seul verset. Galates 3:9 dit que toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. C'est ce que je voulais ajouter. Alors, comme je le disais, donc, je regardais le frère qui parlait donc, de la foi et de l'attitude à tenir dans la course. C'est ainsi pour la foi aussi. Nous voyons que le livre des Hébreux aussi nous parle d'une attitude à tenir aussi dans la foi. Excusez-moi, j'ai tellement de papiers. Alors, donc, ce matin, nous allons donc parler de quatre fondements de salut. Les Hébreux, le livre des Hébreux s'adresse donc à des gens qui étaient persécutés et qui étaient donc dispersés. Et comme ils étaient persécutés et ils étaient dispersés, ils n'avaient pas tellement de bergers à côté d'eux et beaucoup de gens avaient commencé à se décourager. Et donc, ce livre a été écrit. On ne sait pas si c'est Paul qui a écrit le livre ou d'autres personnes. En tout cas, on ne sait pas exactement qui est l'auteur. Beaucoup pensent que c'est Paul, mais en tout cas, ce n'est pas attesté. Ce qui est sûr, c'est un des apôtres ou en tout cas un père de la foi qui a donc écrit pour encourager les Hébreux à rester fermes, ceux qui étaient dispersés dans la dispersion, à rester fermes dans la foi. Aujourd'hui, c'est vrai, nous n'avons pas la même persécution. La persécution n'est pas similaire. Ce n'est pas la même persécution. Mais nous aussi, nous avons notre persécution. Elle est passive, mais active. Et elle est dangereuse, la persécution que nous avons aujourd'hui. Beaucoup de gens abandonnent la foi à cause du monde, à cause de la mondanité et à cause de beaucoup de choses. Et donc, nous avons besoin des mêmes encouragements pour aller de l'avant dans la foi. Nous allons donc voir quatre fondements dont parle ce livre qui pourra nous encourager. Les quatre fondements donc sont les suivants pour ceux qui veulent noter. J'ai dégagé quatre points. Le premier point, le premier fondement de notre salut, ce sont les promesses de Dieu. Le salut est garanti par les promesses de Dieu. Le verset 12 à 16 nous dit ça. Deuxièmement, notre salut est garanti par le serment de Dieu. C'est le verset 17. Troisièmement, notre salut est garanti par le testament. Hein, le testament, la parole qui est donc le testament. Et quatrièmement, notre salut est garanti par l'ancre. La Bible nous parle de l'ancre de notre âme. Donc ce sont ces points que nous allons essayer de développer. Donc, comme je le disais, notre salut est garanti par les promesses de Dieu. Nous allons relire le verset 12 à 16 pour voir ce que ce verset nous dit. Il dit, donc nous désirons que chacun de vous, au verset 11, montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Donc nous voyons ici que nous allons d'abord définir le mot promesse. La promesse c'est quoi? La promesse c'est l'action de s'engager à faire quelque chose. Promettre donc c'est s'engager donc à faire quelque chose. Nous voyons ici que la Bible nous dit que Dieu a fait une promesse. Dieu s'est engagé à bénir Abraham et à bénir donc les descendants d'Abraham. Cela implique le salut. Cela implique le salut puisque c'est pour les encourager à demeurer fermes dans la foi pour être sauvés à la fin. Donc cela implique le salut. C'est Dieu même qui a promis et qui s'est engagé à le faire. Béni Abraham, c'est pourquoi j'ai lu dans Galates 3:9 où il est dit que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc Dieu a promis, hein, comme nous dit la parole de Dieu, Dieu a promis et Dieu s'est engagé. Hein, il jura par lui-même et dit certainement je te bénirai. Donc, chez nous en Afrique, on dit que si on attrape ta main, tu peux la retirer. Mais si on attrape ta parole, tu ne peux pas la retirer. C'est difficile de retirer ta parole. Une fois que quelque chose est dit, est sorti de toi, c'est sorti. Vous avez suivi les campagnes politiques, les hommes politiques, il y en a qui affirmaient une chose et ils affirment une autre chose. Après, ils veulent se dédire, ils disent non, je n'avais pas dit ceci, je n'avais pas dit cela. Les journalistes disent pourtant tu l'as dit. Et on fait repasser ce que la personne avait dit et la personne est confondue par ses propres dires. Donc, Dieu ici a promis de bénir Abraham, de bénir les descendants d'Abraham. Dieu a promis de donc nous sauver. Ça, c'est un point très important. Les hommes, comme je l'ai dit, la valeur, ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa parole. C'est ça, c'est sa parole. J'ai appelé Michel, je lui ai dit que, en fait, il a envoyé un message, dit que j'allais venir, etc. Et effectivement, il est venu à la gare, il m'a croisé, tout ça. J'ai respecté ce que j'ai dit, lui aussi, il a respecté ce qu'il a dit. Si je n'étais pas venu, ou si je disais que j'allais venir dimanche matin, sûr, et puis bon, on me voit pas, tout un programme allait être mélangé, parce que on s'attend à moi, et puis je suis pas venu. Et c'est pour parer même à toute éventualité que je suis venu samedi, pour ne pas rater mon train le dimanche matin. Alors, c'est pour dire qu'un homme, son importance, c'est sa parole. Et les anciens connaissaient cela. Les anciens connaissaient cela. C'est pourquoi on dit une promesse est une dette. Une fois que quelque chose sort de sa bouche, c'est une dette. Tu as dit que tu vas faire ceci, il faut que tu le fasses parce que c'est toi qui l'as dit. Alors, quand nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que on était obligé de couper la tête de Jean-Baptiste, Hérode. La fille d'Hérodias qui a bien dansé, et elle a plu à Hérode. Hérode lui a dit que tout ce que tu vas demander, moi je vais te donner. Elle est partie demander à sa maman, qu'est-ce que je dois demander? La maman dit, il faut demander la tête de Jean-Baptiste parce qu'il ne veut pas qu'on se marie à Hérode. Alors, vous pouvez trouver ce passage dans Matthieu 14, verset 1 à 11. Matthieu 14, 1 à 11. Alors, et elle est venue dire, bon, moi je demande la tête de Jean-Baptiste. Et Hérode, il était découragé. Il n'était pas content, il ne voulait pas tuer Jean-Baptiste. Mais comme il avait déjà dit, il était obligé de décapiter Jean-Baptiste. Vous vous souvenez de Jephthé dans la parole de Dieu. Jephthé est parti au combat, il a remporté la victoire. Il a fait vraiment, il a détruit l'ennemi. Il était content. Et il dit, voilà, au retour, là, tout ce que je vais rencontrer premièrement sur ma route, là, ça sera un sacrifice à l'Éternel. Et malheureusement, à son arrivée, c'est sa fille unique. La Bible nous dit sa fille unique, son enfant unique, qui sort à sa rencontre. Et qui joue des tambourins, qui est très contente aussi que son papa ait remporté la victoire, parce qu'on avait déjà annoncé que son papa a déjà remporté la victoire. Alors, j'ai peut-être été découragé, je dis, mais ma fille, tu me troubles, parce que j'ai fait une promesse à l'Éternel. Là, mais sa fille a dit, bon, si tu as fait une promesse à l'Éternel, c'est pas grave, il faut accomplir ta promesse. Et la Bible nous dit que Jephthé a accompli sa promesse. Comment il l'a accompli? Ça aussi, c'était un sujet de discussion sur le plan théologique. Est-ce qu'il a tué sa fille? Dieu ne prend pas de sacrifice humain. Est-ce qu'il a tué sa fille? Est-ce qu'il l'a consacrée comme ça, vivante? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, la Bible dit qu'il a accompli sa promesse. Alors, pour vous dire, si les hommes sont obligés d'accomplir leurs promesses, hein, les hommes de parole, nous parlons des anciens hommes, comme disait Michel hier, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne sommes pas des hommes de parole. Les gens font des promesses, ils ne restent pas sur leurs promesses. Ils font des engagements, ils ne restent pas sur leurs engagements. Mais dans l'ancien temps, ce n'était pas comme ça. Quand les gens disaient quelque chose, c'était vraiment ça. Quand ils disent quelque chose, c'est vraiment ça. Et ça, nous parlons des hommes. Et Dieu, alléluia, la Bible dit que Dieu n'a pas de changement. Il ne varie pas. Il n'y a pas d'ombre de variation. Ce qu'il dit, il est fait. J'ai un passage que j'avais préparé un peu en arrière, mais je vais le citer déjà. Vous vous souvenez de Balaam et puis Balak. Balaam a dit à Balak, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se renier à lui-même. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Donc, ce matin, qu'est-ce que je vais dire par là? Sachez que notre salut là, pour dire que nous sommes sauvés là, c'est basé sur les promesses de Dieu. Comme nous dit le verset 12, le verset 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Donc, Dieu a juré. Quand même, maintenant, jurer, ça ne veut plus rien dire. C'est pourquoi la Bible même a dit de ne plus jurer, parce que les gens jurent et ne tiennent pas. Jésus a dit que ton oui soit oui et ton non soit non. Sinon, s'il arrive que quelqu'un jure, dans l'ancien temps, s'il arrive que quelqu'un jure, c'est que c'est sérieux. Et Dieu a juré. Et Dieu voulait, s'il y avait quelqu'un de plus grand que Dieu, Dieu allait jurer par cette personne. Mais il n'y en a pas de plus grand. Donc Dieu a juré sur lui-même pour dire que toi, Abraham, et ta postérité, vous serez bénis. C'est moi qui me suis engagé à vous bénir. Donc, il n'y a pas de doute. C'est un fondement sur lequel nous pouvons nous arrêter. Oui. Parce que Dieu a juré. Il a décidé. Il n'y a pas de doute. Parce que dans plusieurs religions aujourd'hui, beaucoup prétendent être sauvés. Ce n'est pas les miracles, on parlait avec Michel, ce n'est pas les miracles qui prouvent que nous sommes sauvés. Ce n'est pas les prophéties qui prouvent que nous sommes sauvés. Je vais dans les églises, même africaines, je vois les gens qui tombent, qui roulent par terre, par-ci, par-là. Mais ils ne connaissent même pas quel est le fondement de leur salut. Le jour où ils vont dans une église où les gens ne tombent pas, ils ne roulent pas par terre, ils vont dire, oh, ça là, ce n'est pas une église. Donc, mais en réalité, c'est des paganistes, comme disait Michel. Dans le monde, ils étaient paganistes, ils avaient l'habitude de voir ces choses-là, aller chez les charlatans, etc. Alors, ils sont venus en Christ également, ils veulent voir les gens qui roulent par terre, etc. Ce n'est pas ça qui prouve que nous sommes sauvés. C'est la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça. Et ce que Dieu a dit constitue un fondement sûr et solide. Si Dieu va jusqu'à jurer, et si nous tenons la parole de Dieu comme parole de Dieu vraiment, si on ne doute pas que la Bible, là, c'est pas la parole de Dieu, si nous croyons que c'est la parole de Dieu, si Dieu va jusqu'à jurer, moi je peux dire oui. Ça, c'est un fondement. Amen. Vous savez, c'est vraiment un fondement. Je crois que j'ai déjà donné ce témoignage-là. Même Satan lui-même, hein, c'est vrai, il est menteur, etc. Mais dans certaines choses, quand vous vous engagez avec Satan, il faut que vous restiez ferme. Hein. Je crois que j'ai déjà donné ce témoignage-là. Un jour, c'est africain, hein? Écoutez ça, comme ça, vous pouvez ne pas croire. Alors, il y a un homme, mais ça s'est passé réellement. Un homme qui avait son ami, et puis ils étaient vraiment très bien, c'était des bons confidents, mais l'ami-là n'avait pas d'enfant. Pendant longtemps, il s'est marié, il n'y a pas d'enfant, etc. Et il a décidé finalement d'aller voir une colline. Et de demander donc un enfant à la colline. Et il y a un serpent bois dans la colline que les gens adorent. Donc il est parti là-bas et il a demandé donc un enfant. Qu'elle a demandé donc un enfant. Ça n'a pas tellement duré. Plus tard, sa femme est tombée enceinte. Je suis sûr que la colline ne peut pas donner un enfant. Le serpent également ne peut pas donner un enfant. Satan ne peut pas donner un enfant. Certainement, le temps pour sa femme n'était pas arrivé. Et il y a une coïncidence où quand il est parti demander à la montagne, sans attendre que sa femme est tombée enceinte, alors il dit qu'il a cru que c'est la colline là, le serpent de la colline qui lui est donné dans la grossesse. Mais comme il s'est confié à Satan, ben, Satan aussi s'est fait passer patron. Il dit que c'est moi qui t'ai donné. Donc, alors que quand il a demandé donc l'enfant là, il a dit à la colline là que si toutefois lui gagne beaucoup d'enfants, il va sacrifier un enfant à la colline. Il va tuer un enfant. Et maintenant il a commencé à avoir les enfants. Il a eu plusieurs enfants. Et maintenant pour aller maintenant tuer un enfant là, il a vu que nous ne sommes plus en ce temps là. C'est ça, c'était dans l'ancien temps. Mais il peut pas aller tuer un enfant, c'est pas possible. Et chaque fois, alors dans leur charlatanisme là-bas, chez nous, les charlatans c'est quoi, comme je disais hier à Michel. Alors les démons, ils s'en vont consulter les démons. Les démons lui disent, souviens-toi de ce que tu as dit à la colline. Souviens-toi de ce que tu as dit à la colline. Et lui, il ne faisait rien. Plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ces enfants ont commencé à mourir. Satan a commencé à taper dans sa famille. Et il y avait des morts, des morts, des morts, des morts. Mais parmi les enfants, il y a une qui était mariée à un pasteur. Elle n'a rien compris pourquoi dans leur famille, les gens ne font que mourir comme ça. Parce que il s'était engagé à ne pas dire la promesse qu'il est parti faire à la colline là. Lui et son ami là, ils se sont engagés à ne pas dire à personne. Alors sa fille a commencé à prier. Prier pour leur famille, prier, jeûner, prier, jeûner, prier pour leur famille. C'est ainsi que, une nuit, elle a eu une révélation. Elle a vu donc un serpent qui est venu dire, mais pourquoi tu nous persécutes? C'est toi qui nous persécutes. Pourquoi tu nous persécutes comme ça? Alors, il faut voir. Et puis, elle a revu, comme dans un songe, son papa qui est parti, et qui est parti faire une promesse, etc., à la colline, etc., tant, 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 tant. Donc, et le serpent dit, voilà, c'est à cause de ça que nous vous attaquons. Ah, quand elle a vu ça, alors elle a redoublé davantage dans la prière. C'est ainsi que, alors, selon son témoignage, les choses se sont calmées. La femme d'un passé, elle a jusqu'à aujourd'hui. Les choses se sont calmées, et puis le serpent même, au niveau de la colline, le serpent est mort. Elle est repartie trouver que le serpent est mort, et puis la situation s'est calmée. Il y a eu mort de mort dans la famille. Alors, nous avons interprété ça pour dire effectivement que même avec Satan, les satanistes connaissent ça. Ça, c'est un truc africain que je vous ai dit, mais ceux qui font le satanisme là, ils connaissent. Si tu vas, les rosicriciens, la franc-maçonnerie et autres là, où on s'engage en donnant son sang, toi tu t'engages, tu donnes ton sang pour faire telle chose, et puis après tu ne fais pas, ben, tu vas avoir chaud. Donc, alors, même Satan lui-même, quand tu t'engages, il faut que tu restes ferme. Et aide Dieu alors. Amen. Je m'excuse si ce que j'ai dit, il y a une confusion, mais en tout cas, dans le monde spirituel, démoniaque, c'est comme ça. Quand on s'engage, si on n'est pas fidèle, on est frappé. Même dans la mafia, c'est la même chose. Hein? Dans la mafia, tu n'as qu'à, parmi les humains, tu n'as qu'à trahir le groupe, et puis partout où tu seras dans le monde, tu seras frappé. Donc la parole donnée est très importante. Et Dieu a donné sa parole. Dieu n'a pas peur de personne. Rien ne peut l'empêcher d'exécuter ce qu'il a dit. Il va donc l'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous passons au deuxième point. Notre salut donc est garanti par le serment de Dieu. C'est à peu près la même chose que nous sommes en train de dire, le serment de Dieu. Le verset 17 nous parle d'un serment. Il dit, c'est pourquoi Dieu voulait montrer, Hébreux chapitre 6, verset 17, c'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dieu est intervenu par un serment. Qu'est-ce qu'un serment? La définition donc du mot serment, c'est une affirmation solennelle. Si c'est les hommes, donc, une affirmation solennelle, donc, particulièrement en prenant Dieu à témoin. Parmi nous les hommes, pour faire un serment, donc, on fait une affirmation en prenant Dieu à témoin. C'est à peu près la même chose que la promesse dont nous venons de parler. Mais ici, la Bible dit que Dieu est intervenu par un serment. Nous allons lire un passage pour que nous puissions voir comment le serment là s'est passé un peu. Ça se trouve dans Genèse chapitre 15, versets 7 à 18. Ce passage nous permet de voir comment le serment s'est passé entre Dieu et Abraham. Je sais que vous connaissez le passage, mais c'est toujours mieux de relire pour rafraîchir la mémoire des gens. Genèse 15, versets 7 à 18. Genèse 15. Verset 7 à 18. Ça nous permet de voir comment le serment donc s'est passé entre Dieu et Abraham. Genèse 15, verset 7 à 18. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chercha. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Cherche que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Quand le soleil fut couché, verset 17. Quand le soleil donc fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et dit, je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Alors donc voilà à peu près donc comment les choses donc se sont passées entre Dieu et Abraham. Quand Dieu a voulu faire alliance avec Abraham pour le pays de la promesse, pour Cana, et pour montrer à Abraham, puisqu'il a dit à Abraham, tu vas posséder ce pays. Abraham a dit, comment moi je vais le posséder? Et quand on parle de Cana, ne voyez pas seulement Israël physique, Cana physique. Si c'est Cana physique, aujourd'hui nous savons tout ce qui se passe en Israël. C'est comme si la promesse n'était pas accomplie. Mais le pays de Cana symbolise donc le royaume de Dieu, que Dieu prépare pour nous. Les choses physiques symbolisent les choses spirituelles. Donc, Dieu a dit à Abraham, tu vas le posséder. Et pour que tu le cherches, je vais te le montrer. Et Dieu donc a intervenu par un serment. Dans le temps, on faisait les serments comme ça. Il a fait, donc, Abraham a coupé les animaux en deux, les béliers et autres qu'il a pris. Il a coupé les animaux en deux et il a mis les morceaux l'un vis-à-vis de l'autre. Bien sûr, il y a du sang qui s'est versé. Si c'était deux hommes, quand on dépose les animaux comme ça, chacun marche au milieu des animaux, au milieu du sang. Hein, au milieu des animaux, là, tu marches, chacun marche. Pour dire que je m'engage, si je ne respecte pas ce que je dis, alors qu'on me coupe en deux comme ces animaux-là. Et Dieu a fait Abraham à couper donc ses animaux. Et vous voyez que quand le sommeil est venu, la Bible dit que Dieu lui-même est passé. Il y a eu des flammes de feu qui sont passées. C'est l'Éternel qui a passé comme une fournaise au milieu des animaux partagés. Et pendant qu'il passait, il a prononcé ces paroles. Je fais alliance avec toi. Je vais te donner ce pays-là. C'est pas pour rien, c'est une image. C'est une alliance que Dieu a faite comme ça. Hein? Les versets 17-18, c'est une alliance. Dieu a passé comme une flamme de feu, hein, au milieu des animaux pour s'engager. Et Abraham n'est pas passé parce que l'homme peut ne pas pouvoir respecter sa parole. Nous avons vu cela. L'homme peut ne pas pouvoir respecter sa parole. Mais le salut là, comprenez que le salut, ça ne dépend pas de nous. Si ça dépendait de nous, nous ne pouvons pas être sauvés. C'est sûr. C'est Dieu qui s'engage à nous sauver. Dieu qui s'engage à nous sauver. Voilà. Sinon, il a dit, bon, Abraham, tu passes au milieu des animaux, et après, moi aussi, je vais passer, et si tu ne respectes pas ce que tu as dit, je vais te couper, c'est-à-dire, tu vas périr comme ces animaux. Non, Abraham n'est pas passé. Dieu est passé. Et il dit, oui, je vais te donner le pays de Canaan. Toi et ta postérité, je vais te les donner. C'est sûr. Alors, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de participation. Dieu demande notre accord. Nous devons rester en Jésus. Mais le salut, c'est Dieu qui s'engage à nous sauver. Quel que soit ce que nous sommes. Dieu s'engage à nous sauver. Amen. Et pour vous prouver cela encore davantage, je vais vous faire lire Exode 12, verset 14, verset 22 à 24. Exode 12, 22 à 24. Vous n'êtes pas obligé de lire, mais moi je vais vous lire ça parce que je le trouve important. Dieu s'engage à nous sauver. Exode 12, si j'ai bien noté, versets 22 à 24. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Alors, voilà, quand Dieu devait passer donc en Égypte pour frapper donc les premiers-nés, il a dit donc aux Israéliens d'entrer dans la maison, chacun dans sa maison, comme nous sommes ici dans la maison, et de mettre du sang à la porte. Quand le destructeur va passer, partout où il n'y a pas de sang, on va frapper. Mais là où il y a le sang, cette maison ne sera pas frappée. Ça aussi, c'est l'image du salut. Là où il y a le sang de Jésus, comme les chants disaient, les chants que Alain a choisi, le pardon, il nous a pardonné par son sang. Là où il y a le sang, alors le destructeur ne passera pas. Mais là où il n'y a pas de sang, en tout cas, il va frapper. C'est sûr. Si un Égyptien avait eu connaissance de ces choses et qu'il il faisait mettre du sang, je suis sûr que sa maison ne serait pas frappée. L'exemple, c'est aussi Rahab. Rahab, la prostituée. On a dit, Rahab, mets un fil rouge à ta porte. Quand nous allons arriver, nous ne va pas toucher à ta maison. Effectivement, elle a mis le cordon rouge. Quand les enfants d'Israël sont arrivés, ils ont laissé Rahab, qui était une prostituée. C'est elle-même qui devait être détruite la première. C'est une prostituée avec sa maison. Mais on l'a préservée à cause de sa foi, à cause de son obéissance. Les enfants d'Israël également, c'est la même chose. Quand ils ont mis le sang à la porte, là, il n'a pas frappé. Alors que dans la maison, certainement, il y avait des voleurs, il y avait des gens mauvais qui sont dans la maison. Mais à cause du sang, là, il n'a pas frappé. Et il est parti frapper là où il n'y a pas le sang. Amen. Pour vous dire que le salut, c'est la foi. Parce que si Dieu doit regarder notre justice, personne ne peut. La Bible dit que nous sommes tous menteurs, et des meurtriers, personne ne peut être sauvé. Mais Dieu s'est engagé, dit Abraham, c'est moi qui m'engage à te donner Canaan, toi et ta postérité. Je le jure par moi-même, je passe entre les animaux partagés pour accomplir l'alliance, pour m'engager moi-même à accomplir l'alliance. Sans même qu'Abraham, ça soit obligatoire qu'Abraham passe. Alors qu'en règle normale, si c'est les hommes, si l'un passe, l'autre là aussi passe. Et le serment donc est accompli pour dire que celui qui ne va pas respecter le serment sera coupé comme ces animaux. Mais ça, c'est Dieu qui est passé comme une flamme de feu. Et Abraham n'est pas passé. Parce que si Abraham passe, nous-mêmes nous connaissons même la vie d'Abraham, sa vie n'a pas été parfaite. Nous connaissons la vie de David, sa vie n'a pas été parfaite. Mais Abraham était appelé ami de Dieu. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu. Gloire à Dieu. Alors donc le salut, c'est Dieu même qui s'engage à nous sauver. Il s'engage à nous sauver en vertu de notre foi. Oui. Donc, le serment de Dieu, le serment que Dieu a fait selon ce que Hébreux nous dit donc au verset 17, le serment donc est un fondement. En tout cas pour moi c'est un fondement. Un fondement sur lequel je peux m'appuyer parce que Dieu a fait un serment. Il a fait un serment, je peux m'appuyer sur ça. Hein? La Bible dit, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, deux choses immuables, deux choses qui ne changent pas. Quelles sont ces deux choses? Premièrement, c'est la parole de Dieu, elle ne change pas. Dieu a dit, ce qu'il dit, ça demeure, c'est invariable. L'autre chose, il a fait un serment, c'est-à-dire qu'il a juré, il a décidé. Ça aussi, le serment ne change pas. Le serment ne change pas. Parce qu'une fois que vous voulez faire un serment, vous coupez les animaux en deux, chacun passe au milieu des animaux, c'est fini. Hein? C'est-à-dire que c'est scellé, c'est fini. Donc, alors, Dieu a fait cela et il a dit à Abraham, Canaan là, toi et tes descendants, vous allez entrer. Et la Bible dit, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Nous qui croyons, nous allons entrer dans les canaux spirituels, comme Abraham est déjà là-bas, à la droite de Dieu, sur la table, nous allons les rejoindre là-bas, au nom de Jésus. Amen. Alors, le troisième point, pour avancer vite, c'est donc, j'ai appelé cela donc le testament. Parce que le verset 18 nous parle de l'immutabilité. intervient par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Dans ce passage-là, dans les commentaires, quand je recherchais, alors on dit que les termes qui sont employés ici, ce sont les termes d'un testament. Un testament ne change pas. Le testament, c'est quoi? Ce sont les dernières volontés d'un homme. Quand quelqu'un doit mourir, il exprime donc ses dernières volontés. Ça peut être écrit comme ça peut être oral. Mais en tout cas, le testament, ce sont les dernières volontés d'un homme. Et le testament ne change pas. Quand quelqu'un fait son testament et que la personne meurt, on ne peut pas ajouter. Galates 3, 15 nous dit cela. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas enlever. Ce que la personne a dit, c'est ça. Et Jésus, avant de partir, quand vous lisez dans Marc 16, il a dit, Marc 16, allez par tout le monde, prêchez l'évangile à toutes les nations. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est tout. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Ce sont ses dernières paroles. Hein. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Ça, c'est un testament. Et ça écrit posé ici. On ne peut pas changer quelque chose. C'est sûr. C'est pourquoi le brigand sur la croix, quand il a dit à Jésus, il a dit à l'autre là, mais pourquoi tu l'insultes? Lui, il est juste. Il n'a rien fait de mal. Et nous sommes des voleurs. Nous méritons notre sort. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu seras dans ton paradis, Jésus dit, je te l'ai dit, aujourd'hui même, toi et moi là, on sera dans le paradis ensemble. Parce qu'il a cru. Voici, c'est un brigand. Il a été condamné par la loi. Et lui-même, il reconnaît qu'il mérite la condamnation. Les hommes l'ont condamné, il est en train de mourir. Mais Dieu lui dit, Jésus, donc lui dit, aujourd'hui là, toi tu es sauvé. Tu es condamné par les hommes, mais tu es sauvé par Dieu. Nous serons dans le paradis ensemble. Amen. La loi de Dieu est contraire à la loi des hommes. Voilà. La loi des hommes le condamne. Et il est en train de mourir, mais la loi de Dieu le libère. Parce qu'il a cru en Jésus. Celui qui croira sera sauvé. Donc, ça c'est un testament. La parole de Dieu est un testament. Un testament, on ne peut pas changer quelque chose. Ce qui est dit, c'est comme ça. C'est immuable. C'est l'immutabilité. Hein? Il n'y a pas de changement. Donc moi aussi, je crois à cela, que je suis sauvé, si je crois. Amen. Et le dernier point, j'avais parlé de l'encre. L'encre de notre âme. Ça lui est garanti par l'encre de notre âme. C'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Jésus lui-même qui est l'encre de notre âme. Nous dit le verset. Les versets 19 à 20. Nous dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Vous êtes au bord de la mer ici, vous connaissez l'encre. L'encre d'un bateau. Chez nous au Burkina, quand tu parles de l'encre, les gens ne connaissent pas. Mais l'encre d'un bateau, donc vous savez que c'est le fer qui est très lourd, qui est donc accroché à un câble et qui est dans le bateau. Quand on veut donc immobiliser le bateau, on descend donc l'encre. On descend l'encre. Donc, et l'encre va s'ancrer, d'où le mot ancrer. Va donc s'attacher donc au fond donc de la mer, va donc se poser au fond de la mer. Et le bateau donc est immobilisé. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a plusieurs autres techniques, mais dans l'ancien temps, voilà ce qu'on faisait. Donc l'encre, c'est ce gros objet de métal au bout du câble servant à retenir les navires. Donc la Bible dit que le salut que nous possédons là est comme l'encre de l'âme. L'encre de l'âme. Jésus lui-même, la Bible dit que Jésus nous a précédés. Jésus a traversé le voile. Il nous a précédés et il est assis à la droite de Dieu. Et nous, notre foi là, est attachée à Jésus. Et où est Jésus? Jésus est assis dans le paradis à la droite de Dieu. Donc Jésus est cette encre là. L'encre qui retient le bateau pour que le bateau ne puisse pas bouger. Pourquoi on descend l'encre? On descend l'encre parce que si on veut immobiliser le bateau, il y a la mer qui s'agite, il y a le vent, il y a la tempête, beaucoup de choses peuvent intervenir et puis faire bouger les bateaux, emporter les bateaux, envoyer loin. Alors on descend l'ancre pour que le bateau soit ancré, le bateau soit attaché, le bateau puisse rester ferme là où on veut que le bateau soit. C'est la même chose pour la foi. Nous, notre foi là, est attachée à Jésus. Jésus qui est déjà dans le paradis. Quel que soit les mouvements de la mer, quelle que soit la tempête, quelles que soient les difficultés, nous sommes ancrés. Nous sommes ancrés en Christ. Et rien ne peut nous faire bouger. Tant qu'on ne lève pas l'ancre, le bateau ne bouge pas. Même si c'est le feu qu'on va mettre, le feu va brûler le bateau va toujours rester attaché. Parce qu'il est ancré. C'est la même chose que nous. Notre foi étant attachée à Jésus, celui dont la foi est attachée à Jésus, rien ne peut le faire bouger. Non, rien ne peut le faire bouger. Dans la communauté où vous êtes là, c'est Jésus qui vous a appelé. Personne ne peut vous faire quitter la communauté. Si c'est vraiment Jésus qui vous a appelé, vous allez rester ferme. Amen. Oh, quelqu'un ne dira pas, oui, c'est parce que je n'ai pas assez de revenus, ou bien c'est à cause de Michel, ou bien c'est à cause d'Alain, ou bien... Non. Parce que je suis attaché à Jésus, rien ne peut me faire, ne peut me branler. Amen. C'est la même chose. Nous sommes ancrés. Et la Bible nous dit ça. Hein? Cette espérance, verset 19, que nous possédons. Alors, comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Donc, vraiment, nous sommes attachés. Nous sommes attachés et rien ne peut nous faire bouger. Quand tu vois un chrétien, c'est comme l'iceberg. Alors, au dehors, c'est quelque chose de petit qui se présente, mais en bas, le vrai chrétien, il est solide. Amen. Il est solide. Tu peux mépriser son aspect extérieur, mais en bas, la personne est solide. Elle est fondée. Elle est attachée. Alors, voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire par rapport au salut. Nous sommes sauvés. Vraiment, je veux que vous reteniez cela. Nous sommes sauvés. Il n'y a pas de doute. Et cela passe donc par les promesses de Dieu. Dieu a promis. En tant que Dieu, il ne se dédie pas. Ensuite, il a fait un serment avec Abraham et avec ses descendants. Il y a plusieurs autres versets que je n'ai pas lus. Ce n'est pas nécessaire. Alors, ayant fait un serment, Dieu lui-même, Dieu n'a pas besoin même de faire un serment. C'est parce que nous sommes faibles dans la foi. Sinon, Dieu, quand il dit oui, il sait oui. Qu'est-ce qui peut l'empêcher? Mais comme il sait que nous sommes faibles, il faut qu'il jure, il faut qu'il fasse des serments. Bon, pour qu'on dise, ah, au moins, s'il a fait ça, c'est sûr. Sinon, Dieu n'a pas besoin. Ah oui? Ensuite encore, il y a le testament qui est là. Ce qu'il a dit, c'est immuable. On ne peut pas changer ça. Et il dit que toi, tu es sauvé. Jean 5, 24 dit que celui qui croit, il est passé de la mort à la vie. Il est déjà jugé. C'est-à-dire, la Bible dit, Jean 5, 24 dit, nous qui croyons là, notre jugement a déjà lieu. Le jugement dont on parle de demain, quand on va juger les gens, les maîtres, c'est pas nous. Nous sommes déjà jugés. Jean 5, 24, vous pouvez lire. 24, 25. La Bible dit que nous sommes déjà jugés. Nous sommes passés de la mort à la vie. Donc, c'est clair. Et, comme je le dis, tout cela est consolidé. Pardon, l'ancre qui est Jésus lui-même, qui est déjà assis là-bas. Et nous sommes attachés à lui. Qu'est-ce qui va nous détacher? Je ne vois pas. L'ancre est attachée. Il y a un câble en fer qui attache l'ancre. À moins que tu caches le câble en fer là. Tu ne peux pas aussi casser le câble en fer. Le câble, c'est dur. Et ça attache les bateaux. Les bateaux ne peuvent pas bouger. La tempête n'a qu'à se lever. La mer n'a qu'à agiter comment? L'ancre est ancrée. Et nous sommes, c'est nous. Nous sommes ancrés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.